Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici donc dans nos habituelles lectures en liberté pour la suite du roman de Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants. Madame Jules continua. Monsieur de Maulincourt m'a déclaré que les trois accidents dont tu as entendu parler, la pierre tombée sur son domestique, sa chute en cabriolet et son duel à propos de madame de Sérisy, étaient l'effet d'une conjuration que j'avais tramée contre lui. Puis il m'a menacé de t'expliquer l'intérêt qui me porterait à l'assassiner. Comprends-tu quelque chose à tout cela ? Mon trouble est venu de l'impression que m'ont causé la vue de sa figure empreinte de folie, ses yeux hagards et ses paroles violemment entrecoupées par une émotion intérieure. Je l'ai cru fou. Voilà tout. Maintenant, je ne serais pas femme si je ne m'étais point aperçu que depuis un an, je suis devenu, comme on dit, la passion de Monsieur de Maulincourt. Il ne m'a jamais vu qu'au bal, et ses propos étaient insignifiants comme tous ceux que l'on tient au bal. Peut-être veut-il nous désunir pour me trouver un jour seul et sans défense. Tu vois bien, déjà tes sourcils se froncent. Oh, je hais cordialement le monde. Nous sommes si heureux sans lui. Pourquoi donc l'aller chercher, Jules, je t'en supplie. Promets-moi d'oublier tout ceci. Demain, nous apprendrons sans doute que M. de Maulincourt est devenu fou. Quelle singulière chose, se dit Jules, en descendant de voiture sous le péristyle de son escalier. Il tendit les bras à sa femme et tous deux montèrent dans leurs appartements. Pour développer cette histoire dans toute la vérité de ses détails, pour en suivre le cours dans toutes ses sinuosités, il faut ici divulguer quelques secrets de l'amour. Se glisser sous les lambris d'une chambre à coucher, non pas effrontément, mais à la manière de Triblis, n'effaroucher ni Dougal ni Jani, n'effaroucher personne. Être aussi chaste que veut l'être notre noble langue française. Aussi hardi que l'a été le pinceau de Gérard dans son tableau de Daphnis et Chloé. La chambre à coucher de Madame Jules était un lieu sacré. Elle, son mari, sa femme de chambre, pouvait seule y entrer. L'opulence a de beaux privilèges et les plus enviables sont ceux qui permettent de développer les sentiments dans toute leur étendue, de les féconder par l'accomplissement de leurs mille caprices, de les environner de cet éclat qui les agrandit, de ces recherches qui les purifient, de ces délicatesses qui les rendent encore plus attrayants. Si vous haïssez les dîners sur l'herbe et les repas mal servis, si vous éprouvez quelque plaisir à voir une nappe damassée éblouissante de blancheur, un couvert de vermeil, des porcelaines d'une exquise pureté, une table bordée d'or riche de ciselures éclairée par des bougies diaphanes, puis, sous des globes d'argent armoiriés, des miracles de la cuisine la plus recherchée. Pour être conséquent, vous devez alors laisser la mansarde en haut des maisons, les grisettes dans la rue. Abandonner les mansardes, les grisettes, les parapluies, les socs articulés aux gens qui payent leur dîner avec des cachets. Puis, Vous devez comprendre l'amour comme un principe qui ne se développe dans toute sa grâce que sur les tapis de la savonnerie, sous la lueur d'opale d'une lampe marmorine, entre des murailles discrètes et revêtues de soie, devant un foyer doré dans une chambre sourde au bruit des voisins, de la rue, de tout, par des persiennes, par des volets, par d'ondoyants rideaux. Il vous faut des glaces dans lesquelles les formes jouent et qui répètent à l'infini la femme que l'on voudrait multiple et que l'amour multiplie souvent. Puis des divans bien bas. Puis un lit qui, semblable à un secret, se laisse deviner sans être montré. Puis dans cette chambre coquette, des fourrures pour les pieds nus. Des bougies sous verre au milieu de mousseline drapée pour lire à toute heure de nuit. Et des fleurs qui n'entêtent pas. Et des toiles dont la finesse eût satisfait Anne d'Autriche. Madame Jules avait réalisé ce délicieux programme. Mais ce n'était rien. Toute femme de goût pouvait en faire autant, quoique néanmoins il y ait dans l'arrangement de ces choses un cachet de personnalité qui donne à tel ornement, à tel détail, un caractère inimitable. Aujourd'hui, plus que jamais, règne le fanatisme de l'individualité. Plus nos lois tendront à une impossible égalité, plus nous nous en écarterons par les mœurs. Aussi, les personnes riches commencent-elles en France à devenir plus exclusives dans leurs goûts et dans les choses qui leur appartiennent qu'elles ne l'ont été depuis 30 ans. Madame Jules savait à quoi l'engageait ce programme. Elle avait tout mis chez elle en harmonie avec un luxe qui allait si bien à l'amour. Les 1500 francs et ma Sophie ou la passion dans la chaumière sont des propos d'affamés auxquels le pain bis suffit d'abord, mais qui, devenus gourmets, s'ils s'aiment réellement, finissent par regretter les richesses de la gastronomie. L'amour a le travail et la misère en horreur. Il aime mieux mourir que vivoter. La plupart des femmes, en rentrant du bal, impatientes de se coucher, jettent autour d'elles leurs robes, leurs fleurs fanées, leurs bouquets dont l'odeur s'est flétrie. Elles laissent leurs petits souliers sous un fauteuil, marchent sur les cothurnes flottantes, ôtent leurs peignes, déroulent leurs tresses sans soin d'elles-mêmes. Peu leur importe que leur mari voit les agrafes, les doubles épingles, les artificieux crochets qui soutenaient les élégants édifices de la coiffure ou de la parure. Plus de mystère. Tout tombe alors devant le mari, plus de phare pour le mari. Le corset, la plupart du temps, corset plein de précautions, reste là, si la femme de chambre, trop endormie, oublie de l'emporter. Enfin, les bouffants de baleine, les entournures garnies de taffetas gommé, les chiffons menteurs, les cheveux vendus par le coiffeur, toute la fausse femme est là, éparse. 10 jecta, même bras poétae. La poésie artificielle tant admirée par ceux pour qui elle avait été conçue, élaborée, la jolie femme encombre tous les coins. À l'amour d'un mari qui bâille se présente alors une femme vraie qui bâille aussi, qui vient dans un désordre sans élégance, coiffée de nuit avec un bonnet fripé, celui de la veille, celui du lendemain. Car après tout, monsieur, si vous voulez un joli bonnet de nuit à chiffonner tous les soirs, augmentez ma pension. Et voilà la vie telle qu'elle est. Une femme est toujours vieille et déplaisante à son mari, mais toujours pimpante, élégante et parée pour l'autre, pour le rival de tous les maris, pour le monde qui calomnie ou déchire toutes les femmes. Inspirée par un amour vrai, car l'amour a comme les autres êtres l'instinct de la conservation, Madame Jules agissait tout autrement et trouvait dans les constants bénéfices de son bonheur la force nécessaire d'accomplir ses devoirs minutieux desquels il ne faut jamais se relâcher parce qu'il perpétue l'amour. Ses soins, ses devoirs ne procèdent-ils pas d'ailleurs d'une dignité personnelle qui sied à ravir ? N'est-ce pas des flatteries? N'est-ce pas respecter en soi l'être aimé? Donc, Madame Jules avait interdit à son mari l'entrée du cabinet où elle quittait sa toilette de bal et d'où elle sortait, vêtue pour la nuit, mystérieusement parée pour les mystérieuses fêtes de son cœur. En venant dans cette chambre, toujours élégante et gracieuse, Jules y voyait une femme coquettement enveloppée dans un élégant peignoir, les cheveux simplement tordus en grosses tresses sur la tête. Car, n'en redoutant pas le désordre, elle n'en ravissait à l'amour ni la vue ni le toucher. Une femme toujours plus simple, plus belle alors qu'elle ne l'était pour le monde. Une femme qui s'était ranimée dans l'eau et dont tout l'artifice consistait à être plus blanche que ses mousselines, plus fraîche que le plus frais parfum, plus séduisante que la plus habile courtisane, enfin toujours tendre et partant toujours aimée. Cette admirable entente du métier de femme fut le grand secret de Joséphine pour plaire à Napoléon, comme il avait été jadis celui de Césonie pour Caius Caligula, de Diane de Poitiers pour Henri II. Mais s'il fut largement productif pour des femmes qui comptaient 7 ou 8 lustres, quelle arme entre les mains de jeunes femmes! Un mari subit alors avec délices les bonheurs de sa fidélité. Or, en rentrant après cette conversation qui l'avait glacée d'effroi et qui lui donnait encore les plus vives inquiétudes, Madame Jules prit un soin particulier de sa toilette de nuit. Elle voulut se faire et se fit ravissante. Elle avait serré la batiste du peignoir, entrouvert son corsage, laissé tomber ses cheveux noirs sur ses épaules rebondies. Son bain parfumé lui donnait une senteur enivrante. Ses pieds nus étaient dans des pantoufles de velours. Forte de ses avantages, elle vint à pas menus et mit ses mains sur les yeux de Jules, qu'elle trouva pensif, en robe de chambre, le coude appuyé sur la cheminée, un pied sur la barre. Elle lui dit alors à l'oreille, en l'échauffant de son haleine et la mordant du bout des dents, « À quoi pensez-vous, monsieur ?» Puis, le serrant avec adresse, elle l'enveloppa de ses bras pour l'arracher à ses mauvaises pensées. La femme qui aime a toute l'intelligence de son pouvoir. Et plus elle est vertueuse, plus agissante est sa coquetterie. « À toi ? » répondit-il. « À moi seul ? » ?»« Oui. » »« Oh ! Voilà un oui bien hasardé. » Ils se couchèrent. En s'endormant, Madame Jules se dit « Décidément, monsieur de Maulincourt sera la cause de quelque malheur. » Jules est préoccupé, distrait et garde des pensées qu'il ne me dit pas.
Dimanche, les enfants portaient à la patinoire des pattes d'éléphant et des vestes en velours noir. Je rêvais devant les magasins. Les gilets de mes cousins, j'avais 12 ans, rue Simon Bolivar. Le ciné Gare du Nord jouait les films interdits à cause des soutiens-gorge d'Antonella Luandi. Celui qui roulait les épaules assez pour passer le contrôle nous racontait le film à la sortie. sous pour acheter des gens brusques. On jetait des pétards sous les pieds des marchands d'opus. Pendant qu'elle nous courait derrière, le copain restait en arrière. On partageait le lot dans l'autobus. Au bout de quelque temps, mon père a voulu que j'aille attendre 18 ans dans un collège à Versailles. Mais papa, c'était déjà trop tard. J'avais chapardé ma guitare. J'avais lu The Catcher in the Rye.
Lectures en liberté. Denis Flagel.
Ferragus, chef des dévorants, Honoré de Balzac. Il était environ 3 heures du matin lorsque Madame Jules fut réveillée par un pressentiment qui l'avait frappée au cœur pendant son sommeil. Elle eut une perception à la fois physique et morale de l'absence de son mari. Elle ne sentait plus le bras que Jules lui passait sous la tête, ce bras dans lequel elle dormait heureuse, paisible depuis 5 années, et qu'elle ne fatiguait jamais. Puis une voix lui avait dit « Jules souffre, Jules pleure ». Elle leva la tête, se mit sur son séant, trouva la place de son mari froide et l'aperçut assis devant le feu, les pieds sur le garde-cendre, la tête appuyée sur le dos d'un grand fauteuil. Jules avait des larmes sur les joues. La pauvre femme se jeta vivement à bas du lit et sauta d'un bond sur les genoux de son mari. « Jules, qu'as-tu? Souffres-tu? Parle, dis-moi, dis-moi, parle-moi si tu m'aimes. » En un moment, elle lui jeta 100 paroles qui exprimaient la tendresse la plus profonde. Jules se mit aux pieds de sa femme, lui baisa les genoux, les mains et lui répondit en laissant échapper de nouvelles larmes. « Ma chère Clémence, je suis bien malheureux. Ce n'est pas aimer que de se défier de sa maîtresse, et tu es ma maîtresse. Je t'adore en te soupçonnant. Les paroles que cet homme m'a dites ce soir m'ont frappé au cœur. Elles y sont restées malgré moi pour me bouleverser. Il y a là-dessous quelques mystères. Enfin, j'en rougis, tes explications ne m'ont pas satisfait. Ma raison me jette des lueurs que mon amour me fait repousser. C'est un affreux combat. Pouvais-je rester là, tenant ta tête en y soupçonnant des pensées qui me seraient inconnues? Oh, je te crois, lui cria-t-il vivement en la voyant sourire avec tristesse et ouvrir la bouche pour parler. Ne me dis rien. Ne me reproche rien. De toi, la moindre parole me tuerait. D'ailleurs, pourrais-tu me dire une seule chose que je ne me sois dite depuis 3 heures? Oui, depuis 3 heures, je suis là, te regardant dormir si belle, admirant ton front si pur et si paisible. Oh oui, tu m'as toujours dit toutes tes pensées, n'est-ce pas? Je suis seul dans ton âme. En te contemplant, en plongeant mes yeux dans les tiens, j'y vois bien tout. Ma vie est toujours aussi pure que ton regard éclair. Non, il n'y a pas de secret derrière cet œil si transparent. Il se souleva et la baisa sur les yeux. Laisse-moi t'avouer, ma chère créature, que depuis 5 ans, ce qui grandissait chaque jour mon bonheur, c'était de ne te savoir aucune de ces affections naturelles qui prennent toujours un peu sur l'amour. Tu n'avais ni sœur, ni père, ni mère, ni compagne. Et je n'étais alors ni au-dessus ni au-dessous de personne. Dans ton cœur, j'y étais seul. Clémence, répète-moi toutes les douceurs d'âme que tu m'as si souvent dites. Ne me gronde pas, console-moi, je suis malheureux. J'ai certes un soupçon odieux à me reprocher, et toi, tu n'as rien dans le cœur qui te brûle. Ma bien-aimée dit, Pouvais-je rester ainsi près de toi? Comment deux têtes qui sont si bien unies demeureraient-elles sur le même oreiller quand l'une d'elles souffre et que l'autre est tranquille? « À quoi penses-tu donc ? » s'écria-t-il brusquement en voyant Clémence songeuse interdite et qui ne pouvait retenir ses larmes. « Je pense à ma mère, » répondit-elle d'un ton grave. « Tu ne saurais connaître, Jules, la douleur de ta Clémence obligée de se souvenir des adieux mortuaires de sa mère en entendant sa voix, la plus douce des musiques, et de songer à la solennelle pression des mains glacées d'une mourante, en sentant la caresse des tiennes en un moment où tu m'accables des témoignages de ton délicieux amour. » Elle releva son mari, le prit, l'éteignit avec une force nerveuse bien supérieure à celle d'un homme, lui baisa les cheveux et le couvrit de larmes. « Ah, je voudrais être hachée vivante pour toi !» « Dis-moi bien que je te rends heureux, que je suis pour toi la plus belle des femmes, que je suis mille femmes pour toi. Mais tu es aimé comme nul homme ne le sera jamais. Je ne sais pas ce que veulent dire les mots « devoir » et « vertu ». Jules, je t'aime pour toi, je suis heureuse de t'aimer et je t'aimerai toujours mieux jusqu'à mon dernier souffle. » J'ai quelque orgueil de mon amour, je me crois destiné à n'éprouver qu'un sentiment dans ma vie. Ce que je vais te dire est affreux peut-être, je suis contente de ne pas avoir d'enfant. Et n'en souhaite point. Je me sens plus épouse que mère. Eh bien, as-tu des craintes ? Écoute-moi, mon amour, promets-moi d'oublier non pas cette heure mêlée de tendresse et de doute, mais les paroles de ce fou. Jules, je le veux. Promets-moi de ne le point voir, de ne point aller chez lui. J'ai la conviction que si tu fais un seul pas de plus dans ce dédale, nous roulerons dans un abîme où je périrai, mais en ayant ton nom sur les lèvres et ton cœur dans mon cœur. « Pourquoi me mets-tu donc si haut en ton âme et si bas en réalité ? Comment toi qui fais crédit à tant de gens de leur fortune, tu ne me ferais pas l'aumône d'un soupçon ? Et pour la première occasion dans ta vie où tu peux me prouver une fois sans borne, tu me détrônerais de ton cœur. Entre un fou et moi, c'est le fou que tu crois. Oh, Jules !» Elle s'arrêta. Chassa les cheveux qui retombaient sur son front et sur son cou. Puis, d'un accent déchirant, elle ajouta « J'en ai trop dit. Un mot devait suffire. Si ton âme et ton front conservent un nuage, quelque léger qu'il puisse être, sache-le bien, j'en mourrai. » Elle ne put réprimer un frémissement et pâlit. « Oh, je tuerai cet homme !» se dit Jules en saisissant sa femme et la portant dans son lit. « Dormons en paix, mon ange, » reprit-il. « J'ai tout oublié, je te jure. » Clémence s'endormit sur cette douce parole, plus doucement répétée. Puis Jules, la regardant endormie, se dit en lui-même « Elle a raison. » Quand l'amour est si pur, un soupçon le flétrit. Pour cette âme si fraîche, pour cette fleur si tendre, une flétrissure, oui, ce doit être la mort. Quand, entre deux êtres pleins d'affection l'un pour l'autre, et dont la vie s'échange à tout moment, un nuage est survenu, quoique ce nuage se dissipe, il laisse dans les âmes quelques traces de son passage. Où la tendresse devient plus vive, comme la terre est plus belle après la pluie. Où la secousse retentit encore, comme un lointain tonnerre dans un ciel pur. Mais il est impossible de se retrouver dans sa vie antérieure, et il faut que l'amour croisse ou qu'il diminue. Au déjeuner, monsieur et madame Jules eurent l'un pour l'autre de ces soins dans lesquels il entre un peu d'affectation. C'était de ses regards, pleins d'une gaieté presque forcée, et qui semblent être l'effort de gens empressés à se tromper eux-mêmes. Jules avait des doutes involontaires et sa femme avait des craintes certaines. Néanmoins, sûrs l'un de l'autre, ils avaient dormi. Cet état de gêne était-il dû à un défaut de foi au souvenir de leur scène nocturne ? Ils ne le savaient pas eux-mêmes. Mais ils s'étaient aimés. Ils s'aimaient trop purement pour que l'impression à la fois cruelle et bienfaisante de cette nuit ne laissât pas quelques traces dans leurs âmes. Jaloux tous deux de les faire disparaître et voulant revenir tous les deux le premier l'un à l'autre, ils ne pouvaient s'empêcher de songer à la cause première d'un premier désaccord. Pour les âmes aimantes, ce n'est pas des chagrins, la peine est encore loin, mais c'est une sorte de deuil difficile à peindre. S'il y a des rapports entre les couleurs et les agitations de l'âme, si, comme l'a dit l'aveugle de Locke, l'écarlate doit produire à la vue les effets produits dans l'ouïe par une fanfare, il peut être permis de comparer à des teintes grises cette mélancolie de contre-coup. Mais l'amour attristé, l'amour auquel il reste un sentiment vrai de son bonheur momentanément troublé, donne des voluptés qui, tenant à la peine et à la joie, sont toutes nouvelles. Jules étudiait la voix de sa femme. Il en épiait les regards, avec le sentiment jeune qui l'animait dans les premiers moments de sa passion pour elle. Les souvenirs de 5 années toutes heureuses, la beauté de Clémence, la naïveté de son amour, effacèrent alors promptement les derniers vestiges d'une intolérable douleur. Ce lendemain était un dimanche, jour où il n'y avait ni bourse ni affaires. Les deux époux passèrent alors la journée ensemble, se mettant plus avant au cœur l'un de l'autre qu'ils n'y avaient jamais été, semblables à deux enfants qui, dans un moment de peur, se serrent, se pressent et se tiennent, s'unissant par instinct. Il y a dans une vie à deux de ces journées complètement heureuses dues au hasard et qui ne se rattachent ni à la veille ni au lendemain, fleurs éphémères. Jules et Clémence en jouirent délicieusement comme s'ils eussent pressenti que c'était la dernière journée de leur vie amoureuse. Quel nom donner à cette puissance inconnue qui fait hâter le pas des voyageurs sans que l'orage se soit encore manifesté, qui fait resplendir de vie et de beauté le mourant quelques jours avant sa mort et lui inspire les plus riants projets, qui conseille aux savants de hausser sa lampe nocturne au moment où elle l'éclaire parfaitement, qui fait craindre à une mère le regard trop profond jeté sur son enfant par un homme perspicace. Nous subissons tous cette influence dans les grandes catastrophes de notre vie. Et nous ne l'avons encore ni nommé ni étudié. C'est plus que le pressentiment et ce n'est pas encore la vision. Tout alla bien jusqu'au lendemain. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman de Balzac, Ferragus, chef des dévorants, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.